Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Après avoir exercé comme médecin biologiste, Anne-Sophie Pruvot a souhaité développer une forme thérapeutique qui la rapproche de ses patients et qui en font des acteurs de leur santé. Après 3 années d'apprentissage du chatsu, elle s'installe comme thérapeute. Anne-Sophie nous raconte les étapes et les raisons de cette transformation. Bonjour Anne-Sophie Pruvot.
Bonjour.
Donc, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de vous voir avant toute la genèse du projet. C'est-à-dire, on vous place, c'est pas à l'école de médecine, enfin l'école, comment ça s'appelle ?
Oui, c'est
l'école.
La faculté, oui.
La faculté de médecine, oui. Et puis là, pourquoi déjà vous décidez d'être médecin ? Pourquoi ensuite biologiste ? C'est pas un médecin généraliste. Et puis voilà, on va refaire toutes les étapes de cette transformation jusqu'à l'installation et après on parlera du chiatsu et de sa pratique. Donc là, revenons en arrière, vous êtes en faculté de médecine, non, vous êtes au bac et vous décidez de votre avenir, prochaine formation.
Alors du coup, il y a des personnes qui m'ont influencé. J'ai eu 2 enseignants en SVT, donc j'ai fait un bac S, option SVT, parce qu'en fait j'étais nulle en maths, nulle en physique, mais j'adorais l'SVT et j'ai fait bac S pour ça. Et j'ai une prof d'SVT qui, elle, son grand regret c'est de ne pas avoir fait médecine, parce qu'à l'époque, les femmes ne faisaient pas médecin, on était une ancienne génération. Et j'ai eu un autre enseignant pour ma spécialité, qui lui était quelqu'un de passionné et passionnant. C'était un ancien chercheur qui était enseignant de manière transitoire, parce que clairement il allait faire encore d'autres métiers dans sa vie. Et il m'a vraiment donné la passion de la science de la vie. Voilà. Je me suis dit vraiment que c'était là-dessus que je voulais travailler. Et en fait, je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient, comment le corps humain fonctionnait, pourquoi il y a des gens qui étaient malades, d'autres qui ne l'étaient pas. Voilà, tout ça m'intéressait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire médecine, malgré le fait que mon prof de physique m'ait dit que vu mes notes en physique, je ne pouvais pas y arriver.
Oui, là, c'est pour les mauvais élèves, il faut bien entendre oui, voilà. Ça. Voilà.
Mais je me suis dit que j'avais rien à perdre et qu'au moins, j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets.
Donc vous étiez condamné par le prof de maths et encouragé par le prof de SVT.
C'est ça.
Donc médecine, donc faculté de médecine, il y a un concours.
Oui, donc le concours.
Vous l'avez passé, oui. Ça...
Je l'ai passé et arrivé en deuxième année, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce que c'est bien gentil, la médecine, c'est super intéressant, c'est passionnant. Mais en pratique, je vais être médecin. Et est-ce que j'ai vraiment envie de pratiquer comme ce que je vois dans les services ? Bah non, en fait, clairement, ce n'est pas ça que je veux. Moi, c'est vraiment l'aspect cellulaire, vraiment la biologie cellulaire, l'histologie, enfin bref, tout le fonctionnement en lui-même du corps humain. Et j'avais vraiment envie de cette approche avec les microscopes pour voir les cellules et comprendre le fonctionnement.
Qu'est-ce que vous ne vouliez pas ?
J'avais pas envie d'être en dehors d'un laboratoire de biologie médicale. En fait, j'ai fait médecine pour devenir biologiste et je voulais vraiment pas faire autre chose que ça.
D'accord, ça c'est presque une optique de chercheur là.
Oui, après il y a la recherche qui m'a beaucoup intéressée. Et donc du coup, je me suis beaucoup questionnée, j'ai fait des masters en complément. Et quand j'étais dans ma période de doute, là en deuxième année, j'ai rencontré une chercheuse qui m'a dit « Écoute, qu'est-ce que t'as à perdre ? Essaye, au pire tu seras médecin. » Okay. Je me suis dit, oui, effectivement, faut tenter, quoi, faut faire, et puis et fais-toi plaisir. Et donc, du coup, j'ai fait les masters qui me plaisaient, les options qui me plaisaient, et j'ai fait en sorte d'arriver à la spécialité que je voulais faire.
Et cette spécialité, vous donnait donc une espèce de fourchette. D'un côté, il y avait la recherche, de l'autre côté, médecin biologiste.
C'est ça.
Alors, un mot sur qu'est-ce qu'un médecin biologiste ?
Alors, le biologiste, c'est celui qui va faire les analyses médicales. Donc, quand on va dans un laboratoire de biologie médicale faire une prise de sang, C'est le biologiste qui va faire le prélèvement des fois, ou ça peut être aussi des infirmiers, infirmières. Il va faire l'analyse et il va, en fonction du résultat, expliquer le résultat au patient, mais aussi aider le prescripteur dans son choix sur les analyses complémentaires qu'il y a à faire et le guider. C'est vraiment un travail d'équipe entre le prescripteur qui veut des réponses à ses questions et le biologiste qui lui apporte en fonction des analyses qu'on fait sur le tube de sang.
Idéalement, il y a un dialogue entre le...
Exactement, c'est un travail d'équipe.
C'est rare dans la pratique.
Souvent, ils vont un peu vite et ils oublient un peu les biologistes, qu'on a besoin d'un peu de renseignements cliniques pour répondre clairement à la question, mais ça, on travaille pour que les choses changent.
Et donc, vous êtes devenu médecin biologiste, vous avez exercé à Toulouse, si je me souviens bien.
Oui, alors moi, je me suis spécialisée en aide médicale à la procréation, donc c'est une sur-spécialité.
Et donc, l'aide médicale à la procréation, c'est faire des enfants à l'aide de la science.
Donc c'est aider les couples qui ont du mal à concevoir. Et donc du coup, le rôle du biologiste dans ce cadre-là, c'est de préparer le matériel pour faire les inséminations ou de faire les FIV, les fécondations in vitro, ou de carrément faire les ICSI. Les ICSI. Donc en fait, on prend un spermatozoïde et on le met directement dans l'ovocyte pour que ça fasse un embryon pour le transférer.
D'accord, c'est des manipulations de haute précision.
Oui, voilà, c'est vraiment la technicité, mais qui m'intéressait vraiment beaucoup.
D'accord. Et il y a aussi une part d'accompagnement du couple, là, qui n'est pas négligeable.
Oui, j'imagine. Le biologiste voit aussi les couples en consultation pour leur expliquer les techniques qu'on va faire. Et il y a vraiment un gros travail multidisciplinaire avec les gynécos, avec les andrologues, avec les psychologues, etc. pour accompagner au mieux le couple et faire le meilleur choix possible pour ce qu'on va leur proposer.
Donc ça, c'est un métier qui vaut à la fois de la manipulation, comme un menuisier, je dirais, de haute classe. Enfin, voilà, il y a une pratique, il y a un accompagnement de couple dans un projet qui n'est pas rien, de faire un enfant. Donc, a priori, c'est quand même une belle chose que de faire ça. Et ça correspond à votre choix initial. Et en même temps, bon, à un moment, vous pensez changer de voie ou aller ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on changeait de
métier? Alors, il y a plusieurs choses. D'un côté professionnel, je ne me sentais plus en accord avec les valeurs des fonctionnements des services et ce qui était imposé dans le fonctionnement de l'hôpital ou même en privé, en biologie polyvalente. Ça ne me correspondait plus. J'avais aussi envie de travailler différemment avec mes mains. Et de faire un retour à la clinique. Donc pour moi, un retour à la clinique, c'est-à-dire être plus proche de la personne. Donc ça, c'était au niveau côté pro. Et au niveau côté personnel, on avait mon internat à Toulouse qui durait normalement 4 ans. On a fait les prolongations, on a vécu 8 ans à Toulouse et on voulait vraiment venir vivre en Bretagne pour élever nos enfants en Bretagne.
D'accord. Peut-être juste un mot, sans aller dans le détail, mais sur les valeurs qui vous posaient problème et ou alors le gap qui aurait entre vos propres valeurs et celles qui étaient...
Pour la biologie médicale spécifiquement, il y a eu des réformes et clairement il y avait un écart entre en première année de médecine, ce qui fait que j'avais envie de devenir médecin biologiste avec les biologistes que j'ai rencontrés passionnés et passionnants eux aussi, et quand j'arrive interne où en fait avec ces réformes-là, par exemple dans le privé, les laboratoires de biologie médicale n'appartiennent plus à des biologistes, mais à des groupements financiers où il y a plein de petits labos qui ferment pour tout regrouper et on est là vraiment pour faire du chiffre.
Oui, c'est ça. Il y a une prise de contrôle par des gestionnaires, des managers et un changement des rythmes et des façons de protocoles même d'examen.
Et donc du coup, le biologiste, il doit courir sur plusieurs sites en même temps. On n'a plus le temps de rien faire. Enfin, il y en a qui savent très bien le faire, mais moi, c'est pas la pratique que j'avais envie d'avoir. Et je veux avoir le temps, en fait, de pouvoir, quand je prélève quelqu'un, lui expliquer pourquoi je fais le prélèvement, prendre le temps de lui expliquer les résultats. Ça, c'est important, en fait, dans sa prise en charge. Et je veux pas juste être là... à faire passer des tubes sur des tomates. Alors, les biologistes actuels ne se résument pas à ça, mais moi, cette pratique-là ne me convenait plus.
Bah, chacun le constate, chacun qui a fait des analyses en laboratoire voit que pour accéder au biologiste qui a fait les analyses, ça devient de plus en plus compliqué.
Oui, parce que le biologiste, il court partout.
C'est ça. Donc, vous décidez d'aller en Bretagne et de rester dans la médecine en se disant, j'aimerais faire plus de cliniques, donc plus près du patient. Comment se concrétise un tel choix, une telle décision?
Alors, déjà, on s'est installé en Bretagne et à Brest. Et après, parce qu'il y avait une école qui nous plaisait, c'était pour nos enfants. Et une fois qu'on est installé dans cette ville, mais je me suis dit, je vais me trouver un job dans cette ville, sachant que j'ai plus envie de faire de la biologie médicale, je ne suis pas médecin généraliste et je n'ai pas envie d'avoir cette pratique-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Et mon chemin a fait que j'ai rencontré l'établissement français du sang. Donc, du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. Donc, j'y ai travaillé pendant 3 ans, en tant que, d'un côté, avec les donneurs, en tant que médecin de prélèvement, où le rôle, c'est de s'assurer que le donneur puisse faire le don et gérer les malaises. Et d'un autre côté, le centre de santé, où là, on prélève des malades pour faire des prélèvements de cellules souches en vue d'une greffe de moelle osseuse. On prélève aussi des donneurs anonymes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une ambiance, une belle ambiance, un beau travail d'équipe. Et ça me permet de me rapprocher un peu du malade en lui-même.
Et vous me disiez qu'accompagner quelqu'un dans une greffe d'os, c'est ça, enfin, c'est, ça
de moelle osseuse, oui.
Ouais, ça nécessite un accompagnement vraiment lourd, enfin important, passer des heures avec le.
Oui,
le
voilà. En fait, il y a 2 types de prélèvements. Il y a le prélèvement le plus connu dans le prélèvement au bloc opératoire, qui est loin d'être le plus fréquent. C'est qu'une fois sur 4. Dans trois fois des cas, ça se fait comme un prélèvement de plasma, où du coup, on est allongé dans un lit pendant 4-5 heures. Et il y a, ça part sur une machine qui fait un tri, qui prend les cellules souches et qui rend le reste au patient. Et donc du coup, le patient, lui, il doit être surveillé parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément en bon état général. Et il y a vraiment un suivi tout du long où la personne n'est jamais seule.
D'accord. Je me permets de dire aussi que vos enfants, vous cherchez une école Freinet et vous l'avez trouvée à Brest.
Oui, c'est pour ça qu'on habite à Brest.
On peut en faire la pub. Il y a une bonne école Freinet à
oui,
Brest.
Oui, et puis la ville de Brest peut être très fière d'avoir une école Freinet publique. C'est loin d'être dans toutes les villes, donc merci à Brest.
Parce que c'est pas rien de venir de Toulouse pour chercher une école pour son enfant, je trouve. Bref, vous êtes à l'Institut français du sang et vous faites un travail, encore une fois, qui correspond à beaucoup de ce que vous souhaitez, notamment l'accompagnement. En plus, c'est encore une très haute technicité. Hein. Et à un moment, vous vous dites, non, je vais faire encore autre chose.
Alors du coup, je savais que c'était une transition parce que je savais que je finirais par travailler avec mes mains, mais je ne savais pas exactement quoi. Et finalement, mon chemin a rencontré le shiatsu, la pratique du shiatsu.
Alors, par quel hasard, vous ne savez pas?
Je ne sais plus. Voilà.
Ah, vous ne savez plus?
C'était tellement évident. C'était une évidence où il y a une école à côté de chez moi qui proposait... un dispensaire, donc on y va pour que les étudiants deuxième et troisième année s'exercent sur nous. Et donc du coup, j'ai été recevoir et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire en fait. Moi, je m'inscris, je viens.
D'accord, mais c'est pas simple parce que j'ai compris qu'il y a 2 à 3 ans de formation.
Oui, c'est ça.
Parfois à distance, enfin, il y a une centre de formation dans la région, à Brest peut-être. Et à Paris, sinon il faut aller à Paris. Alors... Et par ailleurs, vous avez 3 enfants, donc il y a beaucoup de choses à gérer là. Comment vous allez faire là, à ce moment-là? Il faut aussi ramener de l'argent, même vous avez un mari qui travaille aussi, mais comment vous faites?
J'ai fait en parallèle, du coup, mon mari était d'accord avec ça, mais la semaine, je bossais à l'UFS, et sur les écoles de shiatsu, c'est un enseignement donc, pratique, essentiellement, théorique, et donc du coup, c'est regroupé sur des week-ends, et aussi des visios pour beaucoup la théorie, et nous en pratique où on doit s'exercer maintes et maintes fois sur des personnes qui veulent bien. Ça c'est quand on est étudiant. Donc j'ai fait une première école qui est aux alentours de Brest, et j'ai finalement changé pour un autre style, parce que moi l'idée derrière c'était d'accompagner des patients qui ont des cancers, entre autres, et je voulais un autre style qui correspondait plus dans l'approche que j'avais envie, donc maintenant je suis sur une école parisienne.
D'accord. Vous allez un peu vite, mais malgré tout, c'est des week-ends entiers à apprendre, vous s'occuper de vos enfants pendant que vous apprenez. Travailler en semaine, ça s'est fait facilement, oui.
Non, c'est pas facile.
Il faut le dire, parce que sinon...
Et c'est fatigant, mais après, c'est parce que, au niveau de ma famille, ça convenait bien et que tout le monde était d'accord avec ça.
C'est ça, c'est un choix presque de couple aussi.
Oui, voilà.
Et ça durait que 3 ans. C'est pas rien quand même.
C'est pas rien.
Et finalement, vous avez été au bout du parcours. Peut-être un détail sur la pratique, comment on fait quand on commence pour pratiquer, justement, parce que c'est vraiment une pratique. Ouais. Vous faites ça sur les copains
Oui, on explique en fait qu'on est étudiant au shiatsu et on propose aux copains, aux bouche à oreille, etc., s'ils veulent venir essayer. Et puis souvent, les gens, ils aiment bien, donc ils en parlent. Ça fait un peu effet boule de neige.
D'accord. Alors maintenant, après, moi, ce qui m'intéressera, c'est de comment vous croisez une médecine issue de deux traditions vraiment très différentes, hein, avec des modèles fondamentaux très différents. Mais avant, présentez d'une part le chiatsu en général, et après la façon dont vous le pratiquez et vous le développez.
Alors le shiatsu, déjà, donc c'est un terme japonais, shi, doigt, atsu, pression. Donc ça veut dire que c'est une méthode par le toucher avec la pression des doigts. Ça emprunte au niveau du raisonnement tout ce qui est en rapport avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui circule dans les méridiens avec des points précis. Nous, en shiatsu, on va travailler ces méridiens de différentes façons, donc avec la pression des pouces, des doigts, sur le trajet et sur des points. On va aussi mobiliser les méridiens par des mobilisations, des étirements, etc. Ça se pratique sur un futon au sol. La personne reste habillée. Et c'est une pratique, en général, on reçoit entre trois quarts d'heure, une heure grand maximum. Voilà pour la technique
vous,
en elle-même.
Vous faites 1h30, des séances d'une heure trente.
Alors moi, je propose 1h30 pour les premières fois parce que j'ai envie de prendre le temps pour les premières fois d'expliquer qu'est-ce que c'est le shiatsu. Il y a des personnes qui ont des interrogations. Et à la fin de la séance de shiatsu, j'aime bien donner des conseils parce que l'idée, en fait, c'est de replacer la personne au centre de sa santé et lui montrer qu'en plus du parcours conventionnel classique qu'elle peut avoir, parce que ça se travaille aussi en prévention, donc on peut aussi être en bonne santé, mais donc en plus de ce qu'on connaît actuellement, y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, des étirements, des mobilisations, des respirations, etc. Et donc moi, j'aime bien prendre le temps d'expliquer tout ça. Donc pour une première séance, j'aime bien prendre 1h30 pour que la personne puisse... qu'on puisse avoir le temps d'aborder tout ça.
Ouais. Dans l'émission, là, on parle souvent des compétences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre. On voit bien qu'il y a une technique qu'on apprend. On pourrait dire que tout le monde pourrait l'apprendre, peut-être. Une fois qu'on la pratique, on voit bien qu'il y a des choses plus spécifiques, peut-être, de savoir-être, de savoir-faire, de curiosité, d'obsession particulière qui fait qu'on devient un bon ou un mauvais. Enfin... médecin ou n'importe quoi d'autre, quel serait ce savoir spécifique, cette façon d'être pour pratiquer cette médecine?
Déjà, c'est important de souligner que dans ces médecines qui font partie des médecines non conventionnelles, ou les pratiques de soins non conventionnelles, il y a un cadre quand même qui existe. Il y a donc des syndicats ou la fédération. Moi, je fais partie de la Fédération française de shiatsu traditionnelle. Et ce cadre fait que les personnes qui est certifiée, donc qui a été jusqu'au bout de l'enseignement, même qu'elle soit médicale ou non médicale, elle a fait autant d'heures pratiques, autant d'heures théoriques. Elle a fait la formation des gestes des premiers secours. Elle a été formée à tout ce qui est la déontologie du shiatsu, à l'éthique. Et il y a eu des modules d'anatomie, de physiologie. Donc, même si elle n'est pas dans le médical, ça lui parle un minimum et elle saura faire la part des choses entre quand la personne vient à elle sur oui, là, c'est une séance de shiatsu qui est préconisée ou non, là, clairement, il faut d'abord... je vous oriente plutôt vers la structure médicale, vers un médecin, et après on fait la séance de shiatsu. Ça, c'est important de le noter. Et quand on choisit un praticien, c'est important de vérifier que c'est une personne qui est bien certifiée, parce que c'est une garantie, en fait. Il y a tout ce travail-là fait par ces écoles.
D'accord. Mais là, vous faites l'hypothèse que la formation est très sérieuse et qu'elle suffit finalement à doter ceux qui apprennent des bons gestes, des bonnes attitudes.
Après, lors de ces formations, il y a aussi un engagement, nous, à, par exemple, on doit nous-mêmes recevoir 9 séances de shiatsu. Parce qu'en fait, quand on s'occupe des autres, il faut aussi savoir s'occuper de soi et avoir un cheminement sur soi et le rapport à l'autre. Et pour bien rester à sa place et être efficace, il y a aussi un cheminement à faire.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant avec vous particulièrement, je trouve, c'est que vous avez été très loin dans la médecine occidentale, puisque la médecine, vous êtes, d'une certaine manière, vous pourriez être généraliste, enfin, vous auriez pu l'être un moment. Vous avez été jusqu'aux analyses, donc là, on va dans le détail, là, vraiment la façon typiquement européenne d'appréhender un corps, de le démonter, de l'analyser, de le concevoir en cellules, etc. Qui n'est pas rien, enfin, c'est déjà un truc énorme. Et vous allez sur d'autres modèles. Alors moi, je ne connais pas bien ça, mais je connais un peu la notion de méridien. Je fais du Qigong, etc. Et moi, quand on m'en parle, je trouve ça métaphorique. Comment vous faites? Alors, est-ce que ça vous pose un problème? Ou au contraire, ça vous aide? Ou ça, C'est même pas une question. Enfin, c'est intéressant de creuser ça. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a voulu explorer deux traditions vraiment très différentes sur un truc très important qui est la médecine et qui donne des résultats en plus très concrets.
Tout est une question de pensée et de positionnement. Donc après, si on reprend la base, la médecine conventionnelle, elle est basée sur une rigueur scientifique, sur des choses qui ont été démontrées par des études. Et tout ce qui est médecine conventionnelle, il n'y a pas de preuves scientifiques, mais c'est déjà des médecines qui sont ancestrales, hein, qui se pratiquent depuis des milliers d'années, et qui replacent l'individu au sein d'un système. Ce n'est pas que l'individu avec ses organes, ses cellules et son alimentation, c'est aussi l'individu, la nature qui est autour, l'énergie et son esprit. On dit souvent on travaille le corps et l'esprit. Et donc du coup, l'interaction est totalement différente. En médecine classique, on va raisonner sur je fais un diagnostic et je mets en place un traitement que je propose aux patients. Là, dans ces médecines non conventionnelles, on va avoir une approche différente. Déjà, le shiatsu, c'est par le toucher. Donc moi, avec le toucher, je vais sentir les tensions, les douleurs, etc. qu'il peut avoir pour les libérer. Le lien qu'il peut avoir aussi, qui est intéressant, je trouve, c'est... il y a plusieurs styles de shiatsu. Donc moi, je fais du zen shiatsu et le ko shiatsu. Et en ko shiatsu, on nous a appris que les méridiens sur lesquels on travaille, c'est des méridiens qui sont un peu plus superficiels que ceux de l'acupuncture. Parce qu'avec une aiguille d'acupuncture, on va vraiment aller à une certaine profondeur. Avec la pression de mes doigts, je ne vais pas aller aussi profond que ça. Mais c'est des méridiens qui sont musculo-tendineux. Et donc pour ceux qui sont sceptiques, qui me disent « Oui, t'es bien gentil avec ton énergie, mais moi, je ne la sens pas. » Mais pas de problème, tu peux éteindre ton cerveau, tu n'as pas à sentir quoi que ce soit. T'es là parce que t'as une douleur au dos. Moi, avec ma pression, mes mobilisations, etc., je vais travailler aussi au niveau musculo-tendineux. Donc soit je travaille sur les méridiens, soit musculo-tendineux, et en fait les deux, c'est pareil. C'est quel raisonnement on a besoin d'avoir ou pas. Et l'idée, c'est je libère cette tension, et après je te montre les gestes que tu peux te faire toi-même aussi pour être acteur de ça et pour pas que ça récidive. Et après, il y a des points, par exemple. Il y a des points qu'on conseille aux personnes, des points antalgiques qui ne permettent de ne plus avoir mal, ou quand il y a du stress. Les personnes qui ont des cancers, par exemple, je leur montre un point qui est super intéressant. Ben voilà, soit la personne, elle me dit « bah oui, moi j'aime bien », et peu importe qu'elle comprenne ou pas, qu'elle adhère ou pas, ça n'a aucune importance en fait. Je pense que c'est il y a des trucs qui fonctionnent bien, et pourquoi s'en priver ? Les personnes que j'accompagne en cancer, il y a l'oncologue qui va dire bah voilà, vous avez tel type de cancer et je vous propose tel type de traitement, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et moi, je viens en complément, donc le shiatsu vient en complément pour dire bah ok, en plus de ça, bah, vous avez des CV secondaires, par exemple les nausées, donc oui, il y a le traitement médicamenteux prescrit par le médecin, mais il y a aussi des gestes qu'on peut faire. Voilà, et c'est d'accord. La complémentarité.
Si je tente un résumé, vous me contredisez si je me plante. Du côté de l'occidental, on a un système de preuves, bon, qui a fait ses preuves, mais et de l'autre côté, on a aussi un système de preuves. D'une part, de par la tradition, ça marche depuis longtemps, et d'autre part, il y a un retour. Il y a soit on a mal, soit on a plus mal.
Et puis il y a aussi des choses qui ont été faites. Par exemple, si je reprends le terme du shiatsu en accompagnement pour les patients qui ont des cancers, il y a Dominique Chevalier, qui est un kiné, qui a montré des études sur Bordeaux. Il y a la directrice de la FFST, la présidente de la Fédération française de shiatsu thérapeutique, qui travaille à l'Institut du sein de Bordeaux et qui a des très bons résultats, où en fait, les patients sont contents parce qu'ils ont moins de nausées, ils ont moins de douleurs. Il y a plein d'hôpitaux maintenant... Il y a un Necker, il y a un Marseille où du coup le shiatsu est proposé en tant qu'accompagnement parce que c'est des choses qui font du bien aux patients. Et même si ça ne rentre pas dans les cases qu'on a et de compréhension, ce n'est pas grave. À partir du moment où c'est complémentaire, qu'on met primum non nocere, à partir du moment où on ne met pas en danger le patient et que ça lui fait du bien, mais il ne faut pas s'en priver.
Ouais, en premier, ne pas nuire, c'est ça que vous avez dit en latin. Ouais. Et puis la deuxième chose importante, c'est que vous mettez le patient au cœur, c'est-à-dire vous lui apprenez même des gestes thérapeutiques.
Oui, des choses que des fois en médecine générale, où le médecin n'a pas forcément le temps,
non.
Et qui n'a pas forcément les connaissances non plus, l'idée c'est, il y a votre parcours classique, et en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté en fait. C'est ça l'idée de recentrer la personne.
Oui, c'est clair. Et puis en plus, vous voyez bien les compléments, parce que vous connaissez les deux médecines, vous voyez bien les compléments entre l'une et l'autre.
Oui, moi, intellectuellement, j'adore, parce que je permets de faire deux liens. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est en fonction des besoins de la personne, enfin, parce qu'après 1h30, ça passe vite, et je ne connais pas la personne en 1h30, mais en fonction de ce qu'elle me dit, des besoins, je peux piocher en fonction de mes différents paniers pour lui apporter des choses qui pourraient l'aider, en fait, dans son cheminement, etc. C'est ça l'idée, en fait.
D'accord. Alors, dans un bon boulot, on s'intéresse à deux choses importantes aussi. C'est le modèle économique, la façon de gagner sa vie avec quelque chose, et le plaisir. On va d'abord parler du plaisir. Quel est, puisque vous commencez une carrière, enfin vous pratiquez depuis un moment, mais vous allez avoir toutes les homologations là, d'ici un mois ou deux, je ne sais plus.
C'est ça.
Et donc, vous êtes capable de savoir déjà en quoi ça change votre propre rapport à la médecine, mais surtout le plaisir au sens très large, je sais pas, l'impression de faire bien, la reconnaissance, j'en sais rien. Quel est ce plaisir, ouais.
Bah déjà, je suis ma propre chef.
Donc je bosse, ouais, c'est pas rien.
Ça, j'adore.
Il y a beaucoup qui aiment ça et beaucoup... Enfin, change de travail à cause de ça, ouais.
Oui, mais voilà, comme ça, j'ai ma liberté. J'aime beaucoup travailler en équipe, mais... au niveau relationnel, il y a toujours des choses qui sont saoulantes, perte de temps. Donc finalement, je travaille seule dans mon cabinet et ça me convient très bien. Même si c'est très important pour moi de garder des interactions avec d'autres praticiens pour une ouverture d'esprit et de pratique. J'ai la chance aussi de pouvoir pratiquer chez moi, où j'ai pu aménager mon cabinet. Et après, ce qui est génial, c'est de voir ce que je peux amener, mettre à disposition mes connaissances à la personne que je reçois et voir le bien que ça leur fait, en fait.
Souvent, oui, il y a le retour.
Le retour de la
en
personne.
En plus, vous passez une heure et demie avec quelqu'un, c'est long. Hein,
c'est long et puis ça passe vite à la fois.
Mmh. Il peut y avoir plusieurs séances. Donc, et vous intervenez sur des cas assez compliqués, parce que si vous parlez de douleurs post-opération, cancer, des choses comme ça, oui, c'est... Un réconfort, enfin plus qu'un réconfort, une atténuation de la douleur, c'est pas rien, ouais, j'imagine que...
C'est pas rien, et puis c'est pas forcément quelqu'un qui a un cancer, ça peut être aussi du tout venant, ça peut être aussi de la médecine de prévention, ça peut être... Voilà, c'est vraiment quelque chose de global, et autant je veux travailler avec des choses bien spécifiques, mais autant je peux faire du tout venant, et c'est très intéressant cette approche-là de replacer la personne pour lui montrer que on peut être acteur de sa santé et faire plein de choses, en fait.
Et sur la dimension économique, c'est intéressant de voir un peu comment la médecine est financée. Il y a un système de sécurité sociale depuis 1946, je crois, qui est merveilleux, mais qui ne fonctionne pas pour ce que vous faites. Vous êtes hors convention, d'une part. Et d'autre part, ça aggrave l'affaire, je trouve, c'est qu'il faut passer du temps. Vous passez beaucoup de temps. Je donne vos tarifs, c'est pas 50 euros. Ouais, un ostéo, il passe 20 minutes, il prend le même tarif, voire plus. Et enfin, il faut aussi se faire connaître, parce que vous n'avez plus la petite plaque et puis la certification de la grande fac de médecine de Paris ou de Brest. Comment ça marche là, d'une part pour se faire connaître, d'autre part pour vivre décemment de son métier?
Alors déjà, pour se faire connaître, il faut... c'est pas évident, parce que moi, je n'ai jamais fait de libéral avant. J'étais dans des laboratoires de biologie médicale ou à l'établissement français du sang. Donc, il faut apprendre à se faire connaître. Il faut utiliser ce que les gens utilisent à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a le bouche à oreille. Après, moi, j'ai des projets aussi. Je voudrais intervenir dans les hôpitaux pour présenter le shiatsu comme un accompagnement pour les cancers. Donc, du coup, j'ai essayé de faire ce qui me paraissait le plus pertinent. Je me suis mis aux réseaux sociaux. J'ai fait un site internet où j'ai fait des photos pour montrer à quoi ressemblait un shiatsu et essayer d'expliquer au mieux... le pourquoi, du comment et comment j'avais envie de pratiquer, pour que les gens me connaissent un petit peu sur l'approche que j'ai envie d'avoir. Il y a le bouche à oreille après. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à toquer les portes, à aller voir. De toute façon, on n'a rien à perdre. Il ne faut pas croire que... Il y a beaucoup de gens aussi qui attendent en disant « j'attends, mais je n'ai pas de rendez-vous ». Oui, mais ok, mais les gens ne savent pas qu'on existe. Il faut dire « si, il faut prendre les devants et dire « j'existe, je fais ça, je suis convaincue, regardez, après, testez, venez ». Vous adhérez pas, peu importe, mais je pense qu'il faut avoir ce démarchage-là qui est important, en fait. Et de montrer qu'il y a des choses qui existent, et quand on y croit et qu'on aime ce qu'on fait comme moi, ça me paraît évident de le proposer aux personnes. Après, c'est la personne qui choisit, elle vient ou elle vient pas, peu importe. Mais,
puis avant, on m'avait dit aussi qu'il y a des gens qui l'ont fait et que ça a bien marché.
Mais enfin, oui, voilà, il y a des gens qui ça marche très bien.
Donc et... on peut s'installer comme après 3 ans d'études.
Oui, voilà. Et après, au niveau tarif, là, je me suis engagée auprès de la fédération d'aller jusqu'à la certification. Donc, ça sera pour moi en mars 2024, où je serai officiellement praticienne shiatsu traditionnelle. J'ai le droit de pratiquer dès à présent parce que, comme les reconversions, c'est loin d'être évident, il y a un accord qui a été fait pour les médicaux qui valide un certain nombre d'heures pratiques et théoriques de pouvoir s'installer. Alors, on n'est pas officiellement praticien shiatsu, on pratique le shiatsu, c'est pour ça que je fais attention aux mots. Et on le dit clairement aux personnes que la certification, c'est dans quelques mois. On s'engage du coup à faire un tarif moindre que les autres praticiens pour pas qu'il y ait une concurrence illégale et que les choses soient bien clarées, bien citées, bien
dites. J'ai une dernière question sur la pratique, j'y pense tout de suite là. Donc vous êtes praticienne shiatsu et voilà, c'est tout un savoir-faire. En même temps, vous avez tout le reste. Est-ce que ça vous aide ou est-ce que vous y... Non, c'est deux mondes différents. Est-ce que quand quelqu'un vient chez vous, ces 10 ans de parcours, autre parcours, vous sert ou pas du tout?
Oui et non. Pour moi, c'est complémentaire et moi, ça m'aide dans les informations que j'ai. Mais après, c'est une question de positionnement. Je vais pas, la personne qui vient me voir, je la reçois pas en tant que médecin. Je vais pas faire de diagnostic, même si elle sait pas les traitements qu'elle a, peu importe. J'ai pas besoin d'avoir ça. Moi, c'est vraiment une approche avec le shiatsu, avec le toucher et avec toutes les techniques, etc., qu'on nous enseigne. C'est vraiment une question de positionnement. Donc oui, ça m'aide, mais sans plus aussi, parce que je vais pas là pour faire un diagnostic conventionnel, je vais plutôt raisonner sur ce que va m'apporter le shiatsu et mon toucher, et ce que je veux faire, pourquoi la personne vient à la séance, qu'est-ce qu'elle en attend, et qu'est-ce que je vais mettre en place pour répondre à ses attentes.
D'accord. On va aller sur la partie conclusive. La partie conclusive, en général, je demande conseil aux jeunes. Alors là, moi je vois deux aspects, d'une part, vous avez un parcours assez scolaire et professionnel qui est un peu qui est exemplaire en certaines manières, parce qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de chemins. Et d'autre part, vous installez dans un boulot qui est tout quand même sauf évident, je trouve, même si ça va marcher, j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui voudrait s'orienter tout simplement déjà par rapport à... Il a 18 ans en général il manque d'horizon, etc. Bon, d'une part, et d'autre part peut-être alors plus précisément quelqu'un qui voudrait, peut-être qui est médecin ou pas forcément, et qui voudrait s'installer, exercer dans ce métier-là. D'abord la question générale du rapport au choix, du rapport à l'orientation. Et à l'ambition, si j'irais, à l'ambition au meilleur sens du terme.
Je pense que c'est important d'être en accord avec soi-même à l'instant T, à l'instant présent, là, maintenant, tout de suite. Moi, clairement, si avec toutes les connaissances que j'ai, expériences, etc., que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, donc à l'âge de 38 ans, 38 ans et demi, on me remet dans un corps de 18 ans, et ben, clairement, je ne ferai pas les mêmes choix, c'est sûr.
Oui.
Alors que si on me remet dans ce corps de 18 ans avec l'expérience que j'ai quand j'avais 18 ans, bah, j'aurais fait les mêmes choix. Donc vraiment faire ce qu'on est d'accord avec nous-mêmes, et les choix qu'on fait aujourd'hui, bah, ils seront peut-être pas en accord avec ce qu'on fait demain. Et en fait, on peut toujours évoluer.
Non, mais comment
pas se mettre de limites.
Comment élargir son champ de captation?
Je pense qu'il faut être curieux. Je pense que si quelque chose nous plaît, il faut y aller. Même s'il y a des gens qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, bah, c'est bien.
Même s'il y a un prof de maths qui vous dit
voilà,
ça marchera pas.
C'est bien gentil, il nous donne son avis, mais on ne lui a peut-être pas demandé. Et il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en fait, il ne sait peut-être pas non plus. Et qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? Si on se pose la question, et alors, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à perdre? Souvent, c'est non, en fait, tu n'as pas grand-chose à perdre, donc essaye, quoi, vas-y. Donc faites-vous confiance, ne vous laissez pas influencer par ce que les autres disent, et faites ce qui est en accord avec vous-même. Si finalement, dans 10 ans, ça ne vous plaît plus, faites autre chose, quoi. Franchement, quand on a 18 ans, quand on sort du lycée, on connaît même pas le tiers de tous les métiers qui existent, et moi encore à l'heure d'aujourd'hui, moi je me suis intéressée à certaines choses, mais il y a plein de métiers que je connais pas, et je pense que voilà, faut pas hésiter à bouger, échanger, aller voir les gens qui pensent pas comme nous aussi, enfin voilà, pour vraiment être ouvert d'esprit, être ouvert aux opportunités, aux rencontres, et il y a des choses qui nous parlent pas à l'heure d'aujourd'hui, mais peut-être que 5 ans après, on se dit « Ah mais oui, je me rappelle, cette personne m'avait dit là, mais maintenant c'est clair, c'est évident en fait. » C'est, voilà.
Oui,
c'est un cheminement, quoi. Ouais. C'est comme moi quand j'ai découvert shiatsu, je ne sais même plus comment j'ai découvert shiatsu, mais je me suis dit « Mais oui, c'est ça, C'est ça.
D'accord. Ouais. Et quelqu'un qui voudrait s'orienter alors dans la médecine et après plus précisément la médecine donc Shiatsu.
Alors on peut pas dire que le Shiatsu c'est une médecine.
Une thérapie.
Ouais voilà.
Non, mais thérapie bon c'est facile parce que c'est tellement large mais ouais.
La personne qui veut faire du Shiatsu, donc si on reprend les termes donc les pratiques de soins non conventionnelles, il faut pas se laisser avoir peur par ce mot qui fait un peu peur. C'est c'est passionnant, allez-y quoi. C'est essayer, il y a différentes écoles avec différents styles de Shiatsu. Les approches
sont différentes. Il y a pas de formation qui serait enfin faut s'orienter, il y a des domaines dans la santé où parfois faut se méfier. Puisqu'il n'y a pas de conseil de l'ordre, même si le conseil de l'ordre peut faire le désordre. Mais
Il faut se renseigner sur l'école. Sur l'école, sur la certification, sur le parcours qu'elle propose. Enfin voilà, il faut se renseigner sur tout ça. Après, il y a Shiatsu et Shiatsu. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode et qu'il y en a partout. Il y a même des formations en ligne au bout de 15 jours. On peut faire du Shiatsu. Bon, c'est n'importe quoi. C'est un truc du toucher. Donc évidemment, il faut du présentiel. Évidemment, il faut de la pratique. Donc il faut se renseigner. Il faut aller aux portes ouvertes. Il faut tester pour voir en fait est-ce que c'est en accord avec tout ça. Et voilà, faut y aller.
D'accord, mais on va faire conclure sur ce. Allez-y les gars. Donc, merci Anne-Sophie Pruvot. Petit rappel, donc vous êtes médecin biologiste, bien entendu. Vous êtes praticienne Shiatsu et vous exercez sur Brest. Sur le site de la radio, on mettra le lien vers votre page. Merci beaucoup Anne-Sophie.
Merci à vous. Au revoir.
Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.